Regardez avec moi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 1 à 3. Hébreux 13, 1 à 3, il est dit « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns à leur insu ont hébergé des anges. » Et regardez au verset 3 ce qu'il est dit. « Souvenez-vous, apportez à votre souvenir, parce que ce n'est pas naturel. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme étant vous aussi dans un corps. » Alors, en parlant de l'Église persécutée, je peux vous avouer que je suis un piètre orateur en la matière, parce que je ne connais pas ce que c'est que d'être persécuté, honnêtement. Et je voudrais simplement vous emmener avec moi, ou plutôt ensemble, qu'on puisse voir dans la parole, ce que la parole dit de la persécution, la réalité de la persécution. Mais je dois vous dire que, je ne veux pas dire que j'ai de la peine à m'identifier, parce que c'est vrai que nous pouvons subir des luttes, des épreuves. Lorsque nous prononçons le nom de Jésus, il peut y avoir des moqueries, mais ça s'arrête aux moqueries, ça ne continue pas sur des actes peut-être de violence que nos frères et sœurs peuvent connaître. Et c'est pourquoi je vous dis que dans ce sens-là, je ne suis pas forcément le meilleur des orateurs ce soir, je le confesse. Et je le dis vraiment avec grand tremblement devant le Seigneur. Est-ce qu'on peut ouvrir la parole de Dieu maintenant dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, à partir du premier verset? Et je crois que c'est important de parcourir ce chapitre parce qu'il y a bien, bien des clés dans la réalité justement de ce que c'est que de servir le Seigneur. Et ça commence avec les disciples de Jésus. Premier verset, chapitre 10 de Matthieu. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna de pouvoir chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Pour les disciples de Christ, ça n'a pas changé. Amen. Il y a cette réalité de l'autorité que le Seigneur nous donne de pouvoir chasser au nom de Jésus, grâce à l'œuvre qu'il fait dans nos vies, ces esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Pas que quelques, mais toutes. Amen. Et puis ensuite, on nomme ces 12 apôtres. Pourquoi apôtres? Parce qu'ils sont envoyés de la part de Jésus. Lorsque Jésus envoie quelqu'un, c'est un envoi qui vient de son nom, c'est lui qui établit et c'est lui qui te donne la grâce de représenter qui il est et de performer, enfin de faire ses œuvres de grâce. Amen. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, nous le connaissons bien sûr. Ensuite, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère. Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, le péager, et oui, même des collecteurs d'impôts. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite et le traître, Judas l'Iscariote qui va livrer Jésus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand je vois le nom de ces personnes, eh bien, je peux m'identifier, parce que ce sont des personnes en chair et en os comme vous et moi. Et Dieu les établit, le Seigneur les établit. Et voilà ce que le Seigneur leur dit. Ensuite, on continue, verset 5, « Tels sont les 12 que Jésus envoya après les avoir donné ses recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Alors, Jésus n'est pas exclusif, mais pour la mission qu'il leur donne de faire, il fallait qu'ils se préoccupent déjà des brebis de la maison d'Israël dans ce premier temps. « En chemin, prêchez le royaume des cieux parce que ce royaume est proche. » Verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni chaussures, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, demandez s'il y a quelqu'un qui soit digne et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison est digne et que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Et voici comment est-ce qu'elle est digne ou non. Verset 14, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement pour le pays de Sodome et de Gomorre, et vous connaissez ces villes, il y aura moins de rigueur que pour cette ville-là. Vous voyez, d'être porteur du nom de Jésus, d'être témoin envoyé de Jésus, il y a des conséquences. Et pas forcément toujours les conséquences qu'on va attendre. On continue. La preuve, verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Mais qu'est-ce que vont faire ces brebis au milieu des loups? Qui voudrait être emmené au milieu de loups? Et pourtant, c'est la réalité. Donc j'apprécie beaucoup l'honnêteté de Jésus, parce que Jésus sait exactement ce qui va se passer. et il les cache. Il n'est pas là pour détourner les choses du royaume de Dieu. Les choses du royaume de Dieu sont comprises dans la souffrance et comprises dans cette réalité-là. Il nous faut que nous le réalisions nous aussi. Amen. Voici, je vous envoie comme des brebis, au milieu des brebis, au milieu des personnes qui vont faire des petites courbettes devant vous. Bien sûr que non. Au milieu des loups. Donc, soyez prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Gardez-vous des hommes. Gardez-vous des hommes. Pourtant, Jésus est venu annoncer l'évangile aux hommes. Mais gardez-vous des hommes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un combat spirituel, parce qu'il y a une réalité d'être porteur de Christ, il y aura de la réaction. Alors, est-ce que je crée... Alors, je ne suis pas là pour essayer de faire un soulèvement de peuple ou quoi que ce soit, mais je me demande, est-ce qu'il y a de la réaction dans ma vie ? Ou est-ce que c'est le calme plat ? Est-ce que je devrais peut-être un petit peu plus bouger pour le nom de Jésus, pour qu'il y ait un petit peu plus de réaction? Alors, je n'appelle pas à la révolte ce soir, vous comprendrez. Mais lorsqu'on prononce le nom de Jésus, lorsqu'on se positionne pour le nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Pas évident, hein? Gardez-vous les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous flagelleront dans leur synagogue. Vous comparaîtrez à cause de moi devant les gouverneurs, devant les rois, pour leur servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, et ça c'est une réalité, quand on vous livrera, ça arrivera, c'est un futur. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Amen. Puissance de l'Esprit, l'Esprit qui vous rendra capable de répondre ce qu'il faut. Amen. Verset 20, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père, alléluia, qui parlera en vous. Vous êtes toujours attaché au Père. Il y a l'affection du Père qui vous accompagne dans ces moments aussi et surtout. Amen. Il y a le Père qui est derrière, et vous avez la puissance de l'Esprit, mais il y a de la souffrance. Il y a peut-être la mort qui sera là. Un martyr, témoin jusque-là. Ça va plus loin, verset 21. Le frère livrera son frère à la mort. Waouh! Et le père, son enfant, vous vous rendez compte? Et c'est la réalité, on connaît ces choses. Parole de Dieu qui est cache, qui dit ce qu'il en est. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, ça, on arrive un petit peu plus à s'identifier, n'est-ce pas? Mais regardez, ils le feront mourir. C'est la réalité de l'évangile. Verset 22, Jésus continue dans cette transparence, dans les choses caches de l'évangile. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, même dans la souffrance, même dans les moqueries, même dans la haine, même dans la trahison. Verset 23, quand on vous persécutera, et j'ai vu le terme de persécuter, il est à la fois en grec, des fois il y a plusieurs notions. C'est à la fois poursuivre celui qu'on persécute et c'est de s'enfuir de celui qui nous persécute. Donc il y a à la fois les deux. Il y a la poursuite. Donc celui qui persécute, j'aime mieux vous dire qu'il ne lâche pas le morceau. Hein. Il ne lâche pas sa proie. Et toi, ce que tu as à faire parfois, c'est de fuir. Ça fait mal de fuir. Est-ce que c'est lâche? Non. Quand on te persécute, tu as le droit de fuir. Attends. Mais c'est une réalité. Quand on vous persécutera dans cette ville-ci, fuyez dans une autre. Et recommencez à annoncer l'évangile dans cette autre ville. Vous vous rendez compte? La ténacité d'un témoin de Christ, comme Paul. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez point achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple de devenir comme son maître et au serviteur comme son seigneur. Ils ont surnommé le maître de la maison Belzébul. Souvenez les pharisiens, c'est par le prince des démons que tu chasses les démons. À combien de fortes raisons surnommeront-ils ainsi ceux de sa maison? Ils me l'ont fait, vous le feront. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que vous entendez à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, c'est-à-dire ceux qui vous persécutent, et qui ne peuvent tuer l'âme. Ce que tu as dans ton cœur, personne ne peut le prendre. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, c'est-à-dire Dieu. Nous le craignons, le Seigneur. C'est lui qui a le pouvoir sur toute chose. Ne vantons pas de moignons pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. voyez, dans ces choses-là, nous revenons toutes à la simplicité de l'Évangile. Père, tu connais toutes choses. Père, que ta volonté soit faite. Père, je soumets mon cœur, mon âme, tu es l'Éternel, et jusqu'au bout, je serai dans cette grâce de reconnaître ta souveraineté. Aide-moi, Seigneur. Même dans les choses toutes simples de la vie. Parfois, dans tes épreuves, lève les yeux sur la création. Regarde ce que Dieu fait autour de toi. Ça va t'enseigner. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez beaucoup plus que des moineaux. Amen. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, même dans ces situations, je le confesserai aussi moi devant mon Père, alléluia, qui est dans les cieux. Contexte de la persécution aussi. Souvent on prend ce texte, bien sûr, on est témoin de Jésus, alléluia, mais je dirais même surtout dans le contexte de la persécution. On vient de le lire. Est-ce que je vais tenir jusque-là ? Oh, le Seigneur n'est pas là pour nous faire du mal. Ce sont les hommes. La preuve, tout ce passage commence par ce verset 17. Gardez-vous des hommes, parce que voici ce que les hommes sont capables de faire. Même si vous faites le bien, même si vous annoncez la bonne nouvelle, même si vous guérissez, même si vous chassez des démons, même si vous faites des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu, les hommes ne vont pas vous aimer, vous serez haïs de toutes les nations. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Oh là là. Verset 34, c'est un verset aussi qui est troublant. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Dans le positionnement de l'Évangile, nous annonçons la paix, nous pouvons recevoir l'épée. La paix, l'épée, ça sonne presque ensemble la même chose. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son Père. Entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi ceux de sa maison. Si tu aimes le Seigneur, si tu adores Dieu, si tu veux faire la volonté de Dieu, et que tu te fais des ennemis dans ta maison, c'est normal. C'est la réalité aussi de l'Évangile. Il y a un choix, verset 37, « Celui qui aime son père, mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils, fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. » Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est ça, prendre la croix de l'Évangile, comme Christ, dans ses témoignages. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Qui vous reçoit me reçoit et reçoit celui qui m'a envoyé. Qui reçoit un prophète en qualité de prophète obtiendra une récompense de prophète. Qui reçoit un juste en qualité de juste obtiendra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire même un seul verre d'eau froide à l'un de ses petits en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Vous vous rendez compte, Jésus est obligé, entre guillemets, pour qu'on comprenne, de terminer le chapitre 10 de Matthieu dans ce geste le plus simple, celui de donner un verre à son prochain. Et ça commence par là, d'être disciple. Après tout ce déballage de la méchanceté des hommes, parce que l'annonce de l'Évangile est donnée, parce qu'il y a la grâce de guérir, de délivrer au nom de Jésus et de recevoir la réaction de l'enfer. Tout à la fin, le Seigneur donne encore cette parole du don de donner un simple verre à boire pour dire qu'on va faire le bien jusqu'au bout et jusqu'au verre à boire qu'on offrira de tout notre cœur. Amen. Marc 10. Voilà la question de Pierre au verset 28, Marc 10. Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Autrement dit, qu'est-ce qu'on va encore subir, Seigneur ? Et autrement dit, qu'est-ce qu'on va surtout mériter de toi ? Cette question n'est pas anodine, peut-être qu'on peut se la poser. « Seigneur, je te sers que j'aurai comme récompense. » Alors Jésus rejoint Pierre et lui dit, Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoive au centuple, présentement dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Alors ça, on aime bien, ça va, ça passe, on est d'accord, hein, c'est super, hein. On le cite souvent, mais on oublie la fin. Avec des gens qui vont nous poursuivre, et avec le fait que je devrais fuir peut-être ces gens. Il y a le contraste entre retrouver la famille de Dieu extraordinaire, parce combien j'ai vu des pères, des mères, des sœurs, et vous l'êtes ce soir. C'est magnifique. Gloire à Dieu. Ça, c'est dans le temps de paix, de grâce. Mais dans le temps de la persécution, peut-être que nous devrons fuir, peut-être que nous devrons quitter ce cher frère, cette chère sœur, cette mère spirituelle, parce que les temps seront plus durs. Donc il y aura ces persécutions, le fait d'être poursuivi et de fuir. Et dans le siècle à venir, amen, ça quelque chose que nul ne pourra t'enlever, la vie éternelle. Verset 31, plusieurs des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ensuite, au verset 32 et suivant, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. C'est assez extraordinaire de voir que la portion de la parole de Dieu que nous venons de lire ici, au verset 31, annonce la suite. Plusieurs des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et Jésus se met là-dedans. Parce que Jésus va s'identifier jusque-là. Le premier a été considéré par les siens comme le dernier. La parole qui a été faite chair n'a pas été reçue parmi les siens. Et Jésus, le premier, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui par qui et pour qui tout est créé, alléluia, a été le dernier des derniers pour finir à la croix. Et c'est une révélation de voir aussi que ce passage ici concerne avant tout Jésus, alléluia. Et c'est pour cela que ça m'encourage, parce que j'ai un grand frère à mes côtés. J'ai le Fils de Dieu qui a été glorifié et qui a connu le rejet, qui a connu la flagellation, qui a connu la crucifixion, qui a connu l'horreur pour moi. Et dans ces temps difficiles, je peux me souvenir de Jésus, je peux me souvenir de la croix, amen. Parce que lui, le premier, le champion, le glorieux, a été considéré comme le dernier, amen. Mais parce qu'il a été considéré le dernier, et les derniers seront les premiers. Il a été le premier-né de celui qui a traversé la mort, le premier-né d'entre tous, la parole de Dieu le dit dans les épîtres de Paul, qu'il a été le premier en toutes choses, amen. Mais il a dû passer par cette souffrance pour m'encourager lorsque je souffrirai à cause de son nom. J'ose dire grâce à son nom. Je vais gentiment abréger. Dans la deuxième de Paul à Timothée au chapitre 3. Nous sommes dans ces derniers jours. 2 Timothée 3, premier verset. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Merci Seigneur de nous le dire, de nous le rappeler. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, impulsifs, imbus d'eux-mêmes, aimant leur plaisir plus que Dieu. Waouh! Ils garderont la forme extérieure de la piété, c'est-à-dire que ce seront de beaux religieux, mais ils en renieront la puissance qui est donnée par le Saint-Esprit. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péchés agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la piété. De même que Jannès et Jambrès, juste la petite parenthèse, ce sont donc des noms qui sont empruntés à la tradition juive. Nous ne connaissons pas forcément ces personnes, mais voilà, connu de ce temps-là. Donc, de même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit perverti et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Voilà, l'épreuve va voir si tu es un authentique enfant de Dieu ou non. Mais ils ne feront plus de progrès car leur folie sera manifestée pour tous comme le fut celle de ces deux hommes. Regardez Paul qui maintenant s'identifie, qui rejoint son jeune poulain, j'ose dire, Timothée qui est à Éphèse, qui connaît aussi une galère quand même dans le ministère, le pauvre homme déjà si jeune. Et il lui dit, verset 10, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance. Gloire à Dieu pour de tels hommes. Gloire à Dieu pour de tels exemples qui nous encouragent. Amen. Amen. On a besoin de cela. Plus mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche ? Pourtant, c'était son église où il était rattaché, mais dans la ville d'Antioche, il y avait vraiment de l'opposition, là. À Iconium, à Lystre, il a été lapidé. Quelle persécution n'ai-je pas supporté ? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Alléluia. Verset 12. Tous ceux, d'ailleurs, qui veulent vivre pieusement, le terme a donné Eusèbe comme prénom, c'est un peu un nom particulier, mais c'est Eusèbe. Si vous connaissez des Eusèbes, c'est le terme qui a donné le terme de pieux. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, égarés eux-mêmes. Toi, nous, vous, Église, restons attachés à ce que vous avez appris, ce que nous avons appris, et qui est l'objet de notre foi, comme nous le savons et comme nous l'apprenons. Amen. Je retourne à Timothée. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. J'aimerais encore juste vous lire le passage que nous trouvons dans Acte 1, verset 4. Acte 1, 4. C'est Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il passe 40 jours avec ses disciples. On aimerait bien d'ailleurs savoir ce qui s'est passé durant ces 40 jours, mais vous savez, Jésus a tout dit. Donc, il n'y avait pas besoin de rapporter encore quelque chose pendant ces 40 jours. Tout a été révélé durant son ministère jusqu'à la résurrection. Comme il se trouvait avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce dont m'avait entendu parler, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Amen. Eux donc, amen, oui, réunis, demandèrent au Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël ? Vous voyez, les disciples étaient encore imprégnés de ce fait de voir cet empire romain disparaître et de voir le Messie amener son royaume. Mais il leur dit, mais attendez les amis, ce n'est pas encore le temps, il y a autre chose qui doit se passer. Et voilà ce à quoi je vous demande de vous préoccuper. Et voilà ce qu'il leur dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître ces temps-là où je vais établir mon règne, ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais il y a un grand mais, j'ai regardé, il y a un contraste, mais voilà ce à quoi vous devez être préoccupés, et voilà ce à quoi l'Église, jusqu'à mon retour, devrait être préoccupée. Amen. Mais vous recevrez une puissance dynamis, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Alléluia. Et vous serez, c'est un état. Il n'y a pas besoin d'être hypocrite. On le voit si tu es rempli de l'Esprit ou pas. Ce n'est pas un rôle qu'on va jouer. Amen. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est là en toi. Vous serez, c'est le verbe être, c'est un verbe d'état. Et vous serez mes témoins, mes martyrs. Ce matin, on a eu des martyrs déjà. Ces neuf qui ont pris les eaux du baptême. Et vous serez mes témoins, par la puissance de l'Esprit aussi, témoins à Jérusalem, c'est-à-dire dans votre entourage proche, un peu plus loin dans le quartier, dans la Judée, puis après un peu plus loin à Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ensuite, Jésus est parti. Il y a eu ces anges qui étaient là. Ils leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là, les amis ? Vous êtes sur la mission, allez-y. Et cette mission, on l'a reçue jusqu'à son retour, amen. Vous voyez ? Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, je les ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe là ? Je pense qu'ils y seront encore. Tout de suite après, il y a deux hommes en vêtements blancs qui se présentent à eux et disent, vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Ils sont retournés à Jérusalem, ils ont été 120 dans la chambre haute, ils ont été baptisés dans l'Esprit, notre ami Pierre a été transformé, il y a eu un discours à Jérusalem, et ça a été la naissance de l'Église, parce que ça a été un discours rempli de l'Esprit, rempli du feu de l'Esprit, un Pierre complètement transformé, qui ne s'est pas dégonflé, parce qu'il était rempli de l'Esprit, amen, et ça a été la naissance de l'Église. grâce à la puissance de l'Esprit, alléluia, qui a été déversée sur sa vie. Alors, il y a ce discours de Pierre, il y a un deuxième discours de Pierre au chapitre 3, et regardez au verset 4, ça commence la persécution. « Tandis qu'il parlait au peuple, survinrent les prêtres des commandements du temple et des sadducéens, excédés de ce qu'ils enseignaient, excédés de ce qu'ils entendaient parler des choses de Dieu. On apportait des malades dans le peuple, et annonçait la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. » C'est-à-dire que le message de l'Évangile était tellement fort, il restait fort. On parle de la résurrection, on parle de la puissance de l'Éternel. Et les pharisiens sont exaspérés, ils sont excédés, et il y a déjà une persécution. Et le premier martyr, c'est suite au discours d'Étienne, qui le rappelle à eux aussi, toute l'histoire d'Israël. Si tu veux connaître l'histoire d'Israël en condensé, tu lis le chapitre 7 d'Actes, c'est absolument extraordinaire. Et ça te fait un résumé de toute l'histoire d'Israël. Et voilà que Étienne, diacre, serviteur avant tout, a été lapidé. Et ça a été le début de l'interrogation de celui qu'on a nommé après Paul, qui a été le grand apôtre. Amen. J'ai fait un petit PowerPoint ce soir, donc on a déjà eu une présentation des paquets de Noël. Si on pouvait juste passer peut-être ce PowerPoint pour cette réalité de nos frères et sœurs persécutés pour le nom de Jésus. Dimanche, l'église persécutée, comme je le disais, donc on se souvient au moins une fois dans l'année de nos frères et sœurs. Donc c'est un indice de la persécution des chrétiens dans le monde en 2019. Sur la période étudiée pour élaborer l'index mondial de persécution des chrétiens de 2019, 4305 chrétiens ont été tués en raison de leur croyance, moi je vais dire plutôt foi. L'ONG Portes Ouvertes, il y a un organisme qui s'occupe de cela et qui parle de ces choses, vous pouvez retrouver ça sur internet, estime que plus de 245 millions de chrétiens, c'est-à-dire un chrétien sur neuf, est fortement persécuté dans le monde. Ça fait du monde, hein, 245 millions de valeureux frères et sœurs en Christ. L'index mondial de persécution des chrétiens est un classement réalisé par une ONG chrétienne qui se donne pour objectif de présenter les 50 pays dans lesquels les chrétiens sont le plus persécutés à cause de leur foi. L'index est publié par l'ONG Portes Ouvertes, comme je l'ai dit, dont le siège international est aux Pays-Bas. L'index mondial de persécution des chrétiens a été créé il y a plus de 25 ans dans le but de mieux connaître le contexte et l'intensité des discriminations subies par les chrétiens à travers le monde.